il a survécu à l'extrême goulag, à la Colima.
Prévoir sa vie plus d'un jour à l'avance n'avait aucun sens. La notion même de sens est sans doute inconcevable dans cet univers fantastique. Cette solution, vivre au jour le jour, ce n'était pas le cerveau qui l'avait trouvé, mais une sorte d'instinct animal propre aux détenus.
Prénom et nom.
Varlam Tikhonovitch Chalamov. Son père, le prêtre Tikhon, appartenait au clergé orthodoxe de province, à l'ancien monde en somme.
Sa naissance.
1905, l'année de la première révolution, 12 ans avant celle qui va mettre fin au régime tsariste.
Sa vocation.
Écrivain et lecteur, il passe son temps à fréquenter les poètes futuristes quand il est arrêté.
La première arrestation.
1929, pour une opposition politique réelle cette année-là contre Staline.
La seconde arrestation.
1937, 5 ans après avoir été libéré. Les procureurs des grandes purges puisent dans le vivier des anciens condamnés pour les renvoyer en camp sans raison.
15 ans de silence.
Il n'y a pas de région plus hostile que la Colima, où il est envoyé à l'extrémité nord-nord-est du pays, avec des températures de moins 50, moins 60. Alors c'est déjà difficile de manier le pic, il n'y a certes pas de crayon.
1951-1956.
Chalamov réussit à devenir aide-infirmier. Il est élargi en 51, relégué pendant plusieurs années, et il peut enfin quitter la Colima et rejoindre Moscou en 56.
Son retour à l'écriture.
Il rédige des poèmes, les récits de la Colima, les souvenirs de la Colima qui vont commencer à circuler en Occident dans les années 70, mais beaucoup moins que les livres de Solzhenitsyn. Chalamov reste dans la misère en URSS pendant que la gloire entoure l'autre écrivain du goulag, mais à l'étranger.
Sa mort.
Dans la misère, en 1982, après d'ultimes années dans les institutions pour vieillards, toujours le système carcéral. Mais l'enterrement qui suit réunit beaucoup d'admirateurs, commence déjà le parcours posthume exceptionnel de Chalamov.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui explique l'ouverture de ce dossier.
Avant d'envahir l'Ukraine, on se souvient que Poutine avait pris soin d'interdire l'organisation mémoriale qui documente les crimes du système concentrationnaire soviétique. Pour lui, qui entend aussi réguler l'histoire, tout tourne autour de la grande guerre patriotique de 1941-1945. Les camps du goulag, c'est regrettable sans doute, mais il faut d'abord les considérer au regard de leur contribution aux infrastructures et à la production industrielle. En ce sens, ils auraient participé à la grande guerre patriotique. Que les 20 millions de personnes détenues aient pu être plus utiles, libres et vivantes, ne semble pas faire partie du raisonnement de Poutine, la liberté n'entrant pas spontanément dans son système de pensée. Dans ce contexte de glaciation, Chalamov, témoin du goulag, et dans le goulag de ses unités concentrationnaires les plus effarantes, la Colima, est un témoin indispensable. Enfin, on verra qu'il est bien davantage qu'un témoin. Sait-on qu'il n'y eut jamais de manifestation d'opposition sur la place Rouge entre 1927 et 1967 ? En 1927, le jeune Chalamov battait le pavé derrière des banderoles adressées à Staline, qui commençait à s'annexer le pouvoir, et qui disait « Rends-nous le testament de Lénine », ce texte mythique où le premier dirigeant de l'URSS, juste avant de mourir, recommandait l'ouverture de débats chez les bolcheviks. Notre première interlocutrice, Luba Jorgensen, grande slavisante, grande lectrice et traductrice de Chalamov, qui vient de publier un bel essai sur lui chez Verdier.
À la différence de très nombreuses victimes des arrestations, Chalamov, la première fois, est réellement un opposant. Effectivement, il est lié à des personnes qui ont déjà été arrêtées. Donc, il pouvait savoir, en fait, qu'il serait arrêté. C'était évident qu'il allait l'être. Et à partir de là, se pose bien sûr la question de savoir jusqu'où cet engagement politique est une forme de sacrifice. Pour lui, un intellectuel russe doit passer par la prison. Voilà. Cela vient de l'époque des tsars. Donc, ces modèles sont les essers,
les socialistes révolutionnaires.
Les socialistes révolutionnaires de l'époque tsariste. Et donc, quand il se retrouve en prison la première fois, il est heureux. En tout cas, c'est ainsi qu'il raconte les choses. Hein. Il est heureux. Il dit la vie commençait très bien. Voilà. Comment poursuivre cette vie? Il a 21 ans, 20 ans. Comment, voilà, cette vie qui commençait si bien, ne pas perdre ce cadeau de la vie qui est la prison. Hein.
Mais c'est à ce moment-là qu'il y a l'épisode où il prend le parti d'un détenu issu d'une secte pour le défendre.
Alors, c'est assez...
Pour être à la hauteur des héros dont il s'imagine être légal.
Alors c'est un épisode absolument clé qu'on va lire 3 fois. Hein, dans différents textes.
Alors racontez-le.
Il est raconté chaque fois de manière un peu différente. Donc un détenu, un membre d'une secte, refuse d'exécuter les ordres du gardien et il se fait battre. Il se fait battre devant tous les autres qui restent parfaitement indifférents. Et là, ce jeune homme, Kechalamov à l'époque, se dit « Si je ne sors pas du rang et si je ne proteste pas, je me mépriserais parce que ça veut dire que c'est en vain que j'ai vécu mes 20 ans. Voilà, je ne correspond pas à ces... Je ne suis pas digne de mes modèles. » Donc il sort du rang et il dit aux gardiens, ce qu'il dit varie selon les versions, mais en gros il leur dit « Vous n'avez pas le droit de frapper cet homme pour avoir eu cette audace. Il est déshabillé et mis dans la neige. » Et frappé également, et c'est là qu'il perd, pour la première fois il est frappé, il perd une dent. Il est un initié, et lorsque on lui demande s'il y a des plaintes contre l'escorte, il dit non, je n'ai pas de plainte.
Première expérience de la détention, dans un camp de l'Oural central, la Vichera. Première initiation, c'est-à-dire première descente, première humiliation. Au lendemain de sa libération, en 1932, Chalamov se garde bien de tout propos critique public. Il fait profil bas. Et le lecteur des poètes futuristes qu'il reste va maintenant tenter de se faire une place dans le genre réaliste socialiste officiel. On est étonné aujourd'hui de lire telle ou telle de ses nouvelles dans la presse ouvrière du parti de cette période. À l'usine, par exemple, on y voit une jeune fille laide se transformer soudain en beauté et comment, après avoir pulvérisé les normes de production décidées par le parti. C'est un texte de 37. Les grandes purges staliniennes se déploient alors et la discrétion de Chalamov ne va pas être récompensée. Il faut trouver des coupables en les incriminant pour toutes sortes de délits imaginaires, trotskistes, contre-révolutionnaires. Bientôt, on ajoutera « nationaliste ukrainien ». Les magistrats instructeurs puisent dans une nasse les personnes déjà condamnées. C'est plus commode quand on doit faire du chiffre avec peu de moyens.
Le magistrat instructeur Bedvin était un homme paresseux, de mon âge, et il menait mon affaire sans se presser. La crise du logement, le manque de locaux professionnels aggravaient tous les actes de la Tchéka. Quand il devait s'occuper de moi, Bodvin se voyait attribuer un bureau pour un laps de temps défini, après quoi on l'en chassait comme la dernière des pourritures. Du corridor m'est parvenue la voix d'un type haut placé. « Encore une heure et tu gicles de là comme la dernière des pourritures. » Les bureaux étaient si resserrés que nos jambes se touchaient pendant l'interrogatoire. Je pouvais lire de mes propres yeux toutes les lignes de ce qu'on étalait devant moi, sans hâte ni désir de se hâter. J'ai alors parcouru avec plaisir, en lisant à l'envers, ma propre affaire de 1929. Arrestation, interrogatoire, dossier avec les dépositions des témoins au début et à la fin de l'enquête, et enfin, le dernier feuillet, mon refus de signer ma condamnation. 3 ans de camp et 5 ans de relégation. Ici, vous n'êtes pas prévenu. Vous êtes condamné, me dit le commandant de garde d'une voix indifférente. Et effectivement, il me montra un certificat. Bodvin aussi a relu, sans se presser, mon affaire, y compris une autre note menaçante, à archiver. Cela signifiait que mon dossier serait conservé à perpétuité.
Chalamov va se retrouver, étant considéré comme récidiviste, au plus loin, dans le complexe pénitentiaire de la Colima, sur le versant océan Pacifique du pays, dans une terre hostile de colonisation. Il y parvient en 1937, il ne pourra en partir qu'au milieu des années 1950. Le trajet dure 40 jours en train jusqu'à Vladivostok.
De quelle manière se déroulait l'itinéraire des prisonniers? Il y avait plusieurs étapes. Quand il y avait suffisamment de prisonniers, c'est-à-dire généralement 1000, 1500, 2000, ils embarquaient au port de Vladivostok ou celui de Vanino. Et ils faisaient la traversée à bord d'un bateau appartenant à la compagnie d'Alstroy. Ils voyageaient à fond de cale, dans une cale faite de planches en bois, et dans laquelle il y avait des lits de prison, sur plusieurs niveaux. Après 10 à 12 jours de traversée en mer, les prisonniers atteignaient Magadan. Là, ils étaient enregistrés. Des livrets d'enregistrement existent, où sont notés l'heure d'arrivée, le nom de famille du prisonnier, son numéro de matricule, celui du navire par lequel il est arrivé.
Восстал на пути Магадан, столица Колымского края. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой. Сойдешь по неволе с ума, обратно возврата уже нету. Я знаю, меня ты не ждешь и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а встреча меня не узнаешь.
Магадан, où arrive Chalamov au bout de 45 jours, est la capitale de la Colima. Peut-on imaginer la Colima?
Le mot goulag, depuis Solzhenitsyn, nous est davantage familier. Non, on ne peut pas imaginer la Colima. C'est, quand on regarde une carte, l'endroit au-delà duquel on ne peut pas aller. Au nord, nord-est de la Sibérie. Un ensemble de mines et d'établissements pénitentiaires qui n'ont d'autre administration que le Dalstroy. Pas de parti, pas de soviet. Staline a nommé dans ce territoire, dont l'éloignement crée une autonomie de fait, un maître absolu, Berzine, qui va développer là son utopie personnelle. Il tient par exemple à ce que sa table soit ornée chaque jour d'une fleur. Mais comment produire des fleurs dans un pareil contexte? De l'or, des métaux rares sans doute, mais des fleurs, Luba Jorgensen.
Le sol, c'est du permafrost, donc ce qui rend extrêmement difficile toute exploration. Et il n'y a que 3 mois, en réalité, où on peut creuser le sol et on peut travailler. Ce qui fait que la mise en valeur de cette région, en réalité, c'est le Dalstroy, cette entreprise qui dépendait du NKVD, qui a été chargée de mettre en valeur la région avec la force de travail détenue.
Donc c'est une colonisation par les détenus.
C'est une colonisation par le goulag, par les détenus. Et donc cette région, finalement, une fois que les camps ont été démantelés, la région est plutôt sinistrée.
Et quand il arrive, le proconsul, c'est encore un personnage sur lequel il a imaginé peut-être de faire un roman.
Oui.
Et qui est étonnant, qui s'appelle très, Berzine.
Très étonnant, ouais. Staline lui a confié la mise en valeur de la Colima. Donc il était maître absolu de cette région immense et qu'il voyait comme une sorte de Venise du Nord. Enfin, il avait des projets absolument grandioses pour la Colima. Donc avant la Grande Terreur, il y a eu différents projets par rapport au camp, c'est-à-dire de transformer vraiment les détenus en colons avec des avantages. La possibilité d'avoir leur potager, leur petite maison. Enfin, ils devaient être heureux dans cette région très très inhospitalière. Donc, c'était le projet de Berzine allait dans ce sens. Les camps soviétiques étaient véritablement des territoires, et c'était aussi des entités territoriales, c'est-à-dire qui venaient parfois remplacer tous les autres organes, comme le parti et les soviets. C'était les entreprises concentrationnaires qui géraient des régions entières. C'est pour ça qu'elles avaient des capitales. On dit la capitale du Dalstroy, c'était Magadan, donc construite sur la baie de Nagaïevo, dans le Pacifique. Et c'est là que Chalamov arrive, en 1937.
Et à peine est-il arrivé que Berzine va être disgracié.
Tout à fait. Alors Berzine, effectivement, bon, il y a une logique qui fait que surtout quand on est trop en vue, voilà, on est remplacé et évidemment fusillé.
Une particularité du système concentrationnaire soviétique, et en ce sens il diffère du système nazi, c'est qu'il consomme ses propres bourreaux. La terreur finit par toucher les exécuteurs eux-mêmes. Donc Berzine est arrêté dans le train qu'il ramène vers Moscou. Et quand il arrive, Chalamov va subir une première période d'aggravation des conditions de travail forcées. Mais la roue tournant dans le paysage impavide de la taïga, il est possible d'isoler des périodes différentes. Par exemple, les premiers mois qui suivent le déclenchement de la guerre, 1941, très loin à l'ouest de l'URSS, sont terribles. La mortalité devient telle que les détenus ne peuvent plus produire les minerais qui sont pourtant de plus en plus indispensables. Donc un changement de cap se produit. D'autant que la Colima va voir surgir en 43 un délégué des États-Unis. Oui, on a oublié que Roosevelt a accordé à Staline le pré-bail, c'est-à-dire la livraison immédiate contre remboursement futur éventuel de toutes sortes de machines civiles et militaires. Les récits de la Colima qui racontent la mise en scène et la mise en marche de ces dernières sont particulièrement savoureux.
Et soudain, tout changea. Tous les détenus n'étaient pas considérés comme des ennemis du peuple et on espérait qu'ils soutiendraient la patrie en ces heures difficiles. Tout le monde passait au régime d'alimentation renforcée. On inaugura un registre d'alimentation. On allait jusqu'à donner des plats particuliers à ceux qui remplissaient le plan à 300%. N'importe quel plat au choix à la table officielle à côté du directeur de la mine, du chef des travaux. Les produits seraient exclusivement américains. L'accord avec l'Amérique était signé et les premiers bateaux étaient déjà déchargés à Magadan. Les premiers Diamond et Studebaker roulaient déjà sur les routes, livrant dans tous les secteurs de la Colima de la farine de froment mélangée à du maïs et à de la poudre d'os. Des millions de boîtes de conserves de porc, des bulldozers, du salidol, des pelles et des haches américaines. il fut interdit par décret de traiter les trotskistes de fascistes et d'ennemis du peuple. Ce fut le début des meetings. « Vous êtes les amis du peuple !» Les chefs faisaient des discours. Le gouvernement demandait de travailler honnêtement pour le bien de la patrie et d'oublier le passé, d'oublier ce qui était arrivé durant les premiers mois de la guerre et sur les gisements.
La Colima peut prodiguer des surprises, parfois même un miracle. Emprisonner un moment à Magadan pour un nouveau crime imaginaire, Chalamov a vu sa dernière heure arriver. Mais soudain, son dénonciateur ayant été fusillé plus vite que lui, il a été tiré de sa prison. Un autre récit, illuminé d'une clarté vive, c'est très rare chez Chalamov. La lueur d'un poêle que va ouvrir un magistrat instructeur pour une fois bienveillant.
Et voilà qu'un jour, ayant pris une chemise, l'enquêteur instructeur s'arrêta net. Il regarda Christ et lui demanda « Quels sont vos prénoms et patronymes ?»« Robert Ivanovitch », répondit Christ en souriant. L'enquêteur instructeur était jeune. Il aurait pu être son fils. La chemise à la main et toujours sans dictée de nom, l'enquêteur instructeur blêmit. Il blêmit jusqu'à en devenir plus blanc que la neige. Il tourna rapidement les minces feuillets cousus dans la chemise. Il n'y en avait ni plus ni moins que dans les autres chemises entassées par terre. Puis, l'enquêteur instructeur ouvrit résolument la porte du poêle et il fit immédiatement clair dans la pièce. Comme si son âme s'était illuminée jusqu'à ses tréfonds et qu'au plus profond d'elle-même, il s'était trouvé quelque chose de très important, d'humain. L'enquêteur instructeur déchira la chemise en morceaux qu'il fourra dans le poêle. Il fit encore plus clair. Christ n'y comprenait rien. Et l'enquêteur instructeur lui dit, sans le regarder, « C'est un dossier blanc. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne s'intéressent pas à leur travail. » Et il jeta un regard dur sur Christ. « Nous continuons. Vous êtes prêts ?»« Oui, » répondit Christ. Et ce n'est que bien des années plus tard qu'il comprit qu'il s'agissait de son dossier à lui, Christ. Bien des camarades de Christ avaient déjà été fusillés. L'enquêteur instructeur l'avait été aussi. Mais Christ était toujours vivant et parfois, pas moins d'une fois en quelques années, il se rappelait la chemise en train de brûler, les doigts décidés de l'enquêteur instructeur déchirant son affaire. Un cadeau du juge aux condamnés.
Oui, mais le lot quotidien, c'est le rapport de force à l'état brut. Les truands tiennent le haut du pavé, ils dominent les paysans. Le destin des binoclars, les intellectuels, sous la domination des uns et des autres, c'est d'être des crevards.
Intelligence Service. Jean Lebrun, sur France Inter.
Qu'est-ce qui permet à Chalamov de reprendre l'écriture, en dépit de son impossibilité ?
Parmi les chances dont il va bénéficier, il faut mettre en exergue la protection que lui accordent deux membres du personnel médical d'un hôpital, des camps de concentration, qui lui offrent la possibilité d'une formation d'aide infirmier. Il faut d'autant plus le signaler que Chalamov ne va pas les remercier longtemps. Il est si radical dans son comportement qu'il se fâche aisément avec qui l'a aidé. Cette tâche d'aide infirmier, il l'exerce d'abord en détention, puis, une fois élargi, et plus encore après la mort de Staline en 1953, dans des villages extérieurs au camp. Et il retrouve un peu de chaleur, la possibilité enfin de retrouver sa vocation d'écrivain.
Donc là, il commence à écrire des poèmes. Et pendant toute cette période, il n'écrit que des poèmes qu'il copie ensuite dans deux grands cahiers.
C'est important le crayon.
Ah, c'est important le crayon. Le crayon apparaît dans différents textes de Chalamov. Il y a un récit qui s'appelle Le graphite, qui est consacré au crayon de papier. Enfin, le graphite, c'est un matériau qui est proche du diamant. Les diamants, c'est ce qu'on cherche à la Colima aussi. Hein, c'est ce. Voilà. Le crayon, selon Chalamov, fixe pour l'éternité. Et donc c'est à la fois l'instrument de vie, parce que c'est avec le crayon que les topographes, par exemple, balisent la taïga et font des encoches et font des marques sur les arbres. Et d'un autre côté, le crayon, c'est aussi l'instrument de celui qui écrit les numéros des défunts sur des petites plaques de bois, hein, c'est-à-dire qui est préposé à la mort, au service de la morgue. Donc le crayon, c'est la vie et la mort. Mais
Et le crayon est tenu au bout de la main, qui est habitué à tenir le pic du travail du détenu. La main, ça apparaît souvent sous différentes formes.
Alors la main, donc c'est effectivement une image, un symbole, une image qui court à travers vraiment tout le texte. Il y a souvent, dans les récits de Chalamoff, il y a cet épisode qui revient, hein, où un détenu exténué, dans lequel on devine aussi des traits autobiographiques, tente, pour différentes raisons, enfin souvent c'est pas pour écrire un poème, mais pour écrire une requête pour un autre détenu, parce qu'il aura un quignon de pain en échange, ou parce que on l'a réquisitionné, un juge d'instruction l'a réquisitionné, et il n'arrive pas à tenir ce crayon, parce que sa main a pris la forme du manche de la pelle.
Et puis la main peut manquer, parce que elle a pu être mutilée, c'est une hantise de Chalamoff. Comme l'oubli. Il utilise l'image du magnétophone, il veut rassembler les bandes de sa mémoire. Comment ne pas les perdre? Comment rappeler les noms des disparus?
Mort, l'économiste Semyon Alexeyevitch Chéinine, un homme plein de bonté. Il fut longtemps sans comprendre ce qu'on faisait de nous, mais il finit par le saisir, et tranquillement attendit la mort. Mort, Ivan Yakovlevitch Fediakin. Nous avions voyagé dans le même train, le même bateau, et nous nous sommes retrouvés au même gisement. C'était un philosophe, un paysan socialiste révolutionnaire, qui avait organisé le premier kolkhoz de Russie. C'est pour l'organisation de ce premier kolkhoz qu'il avait été condamné à 5 ans. Mort, Derfel, un communiste français qui avait aussi connu les carrières de Cayenne. En plus de la faim et du froid, il souffrait de tortures morales. Il ne voulait pas comprendre comment lui, un membre du Comintern, avait pu aboutir ici, dans un bagne soviétique. C'était un petit homme faible, chétif. Un jour, le chef d'équipe lui donna simplement un coup de poing pour la forme, mais Derfel tomba et ne se releva pas.
Il n'y avait pas de four crématoire à Colima, et les cadavres attendaient dans le roc, dans le permafrost. En 1938, au gisement aurifère, il y avait des équipes entières chargées de creuser ces fosses. Elles passaient leur temps à forer, à dynamiter et à approfondir ces fosses pierreuses grises, dures et froides. En 1938, creuser des tombes était considéré comme un travail facile. Il n'y avait pas de tâches à remplir, de normes calculées de façon à tuer sur la base d'une journée de travail de 14 heures. Creuser des tombes, c'était plus facile que de rester pieds nus dans des caoutchoucs chounis à patauger dans l'eau glaciale des mines d'or. La production essentielle, le premier métal. Ces tombes, ces grandes fosses en pierre, étaient pleines à ras-bord de cadavres. Des cadavres non décomposés, des squelettes nus revêtus de peau, d'une peau sale, grattée jusqu'au sang, dévorée par les poux. La pierre, le Nord s'opposait de toute leur force à cette œuvre de l'homme en refusant d'accueillir les cadavres en leur sein. La pierre qui devait céder, vaincue et humiliée, se promettait de ne rien oublier, d'attendre et de conserver le secret. Les hivers rigoureux et les étés brûlants, les vents et les pluies enlevèrent les cadavres à la pierre en 6 ans. La terre s'entrouvrit pour montrer ses dépôts souterrains. Car les dépôts souterrains de Colima, ce n'est pas seulement de l'or, de l'étain, du tungstène ou de l'uranium, mais aussi des corps humains non décomposés.
Le grand historien du goulag, Nicolas Werth.
Aujourd'hui, on peut vraiment avoir des données vraiment précises sur le nombre de gens qui sont passés par la Colima en 20 ans, entre 1932 et 1953. On sait que c'est plus de 900 000. Et sur le nombre de gens qui y sont morts, c'est-à-dire 350 000 selon les statistiques officielles. Ce qui veut dire qu'au fond, plus d'un tiers des gens qui sont passés par la Colima sont morts. Et si on prend l'ensemble des statistiques du goulag, on sait que 20 millions de personnes sont passées. Donc ça veut dire qu'à peu près 5% des gens qui sont allés au goulag sont passés par la Colima. Mais sur ces 20 millions, 2 millions sont morts, c'est-à-dire 10%. Donc, à la Colima, la mortalité était en gros plus de trois fois plus élevée que pour l'ensemble des camps du goulag.
Рано утром проснешься и откроешь газету. На последней странице золотые слова. Это Клим Ворошилов даровал нам свободу. И теперь на свободе вы увидите нас. Это Клим Ворошилов даровал нам свободу. И теперь на свободе вы увидите нас.
Chalamov finit par être libéré, enfin libéré, élargi, parce que pendant plusieurs années, il est relégué. Il ne peut pas résider à moins de 100 km de Moscou, ni dans une ville de plus de 100 000 habitants. Il va donc travailler, comme aide infirmier toujours, dans des villages non loin des camps de la Colima. L'un de ces villages se trouve doté d'une bibliothèque exceptionnelle, constituée patiemment par un autre relégué, Pouchkine, Tchekhov, qui était allé faire une enquête dans l'île Bagne de Sakhaline, pas si loin, les futuristes qu'il avait tant apprécié jeune, Mandelstam, mort rapidement après sa déportation, et puis, voici une grâce, si ça peut appartenir au vocabulaire de Chalamov, supplémentaire. Il tente d'approcher par un envoi le grand Boris Pasternak, qui en cette période attend en vain la permission d'éditer en russe son docteur Jivago, mais qui est au sommet de sa réputation. Et Pasternak non seulement lui répond, mais il lui répond comme si Chalamov était son égal.
Alors Chalamov, il arrive à faire parvenir à Pasternak deux cahiers de poèmes. Donc Pasternak reçoit les deux cahiers, il les lit. Alors il y a différentes versions sur sa façon de les lire. Toujours est-il qu'il répond à Chalamov avec une lettre extrêmement détaillée où il analyse plusieurs de ses poèmes dans le détail. Il lui dit « Là, votre rime n'est pas acceptable, donc méfiez-vous des rimes approximatives ». Voilà. Et dans ce dialogue, Pasternak lui dit, en fait, vous êtes laissé influencer par mes propres poèmes et vous n'auriez pas dû, parce que même si 20 Pasternak, Tsvetaeva et Mayakovsky s'égarent, ce n'est pas pour cela que vous devez les suivre. Voilà. Et donc cette lettre arrive dans un bureau de poste qui est situé à 500 km de là où se trouve alors Chalamov, dans un autre hôpital. Il fait ces 500 km à pied, en stop, en traîneau de chien pour aller chercher cette lettre.
C'est un conte de Noël, ça.
C'est un conte de Noël. C'est devenu, c'est un mythe qui fonde aussi sa genèse. Oui, c'est une recherche aussi de socle, de genèse pour sa création.
Un peu plus tard, Chalamov va pouvoir rencontrer Pasternak parce que la possibilité lui est enfin donnée au milieu des années 1950 de retrouver Moscou. Il y sera le plus souvent seul, qui peut partager le tumulte de son esprit et la pauvreté de sa vie matérielle. Il rencontre néanmoins Solzhenitsyn aussi, qui a eu l'autorisation, dès 1962, de publier une journée d'Ivan Denisovitch, la description d'un camp qui paraît à Chalamov si confortable qu'il en aurait rêvé. Chalamov n'en veut pas à Solzhenitsyn d'avoir par nécessité édulcoré la réalité. C'est le projet global de l'écrivain qui lui pose question. Il déteste par exemple que son confrère veuille présenter les camps comme un instrument de rédemption possible pour qui y est passé. Ce ne sont pour lui que les lieux du négatif. Encore un conte, encore une représentation qui devient presque légendaire. Un jour, Solzhenitsyn et lui se retrouvent dans un parc de Moscou. Ils sont allongés sur le ventre, dans l'herbe. Rare moment de loisir de ces deux écrivains, rivés à leur projet. Solzhenitsyn propose à Chalamov de co-écrire l'archipel du Goulag. Mais Chalamov refuse, il ne veut pas perdre sa voix singulière dans l'immense œuvre chorale de son confrère. Chalamov juge Solzhenitsyn trop tentaculaire. Solzhenitsyn considère que Chalamov est trop lapidaire. Et le malentendu ne va cesser de grandir entre les deux hommes, l'un devenant de plus en plus connu, l'autre restant inconnu. Les récits de la Colima qui ne peuvent être édités en URSS commencent à passer en Occident, certes pas au moyen du dispositif multiforme mis en place pour l'archipel du Goulag, plus discrètement, plus petitement. C'est Maurice Nadeau, grand sourcier, qui est le premier éditeur en France.
Je m'occupais en France de ce qui se passait en URSS, c'est-à-dire les dissidents, au fond. Je recevais les samizdat par des voies détournées et Chalamov, j'ai reçu par une amie qui connaissait un ami qui travaillait à l'ambassade de France un rouleau de pellicule. C'était son ouvrage sur les camps. Enfin bref, j'ai fait traduire, j'ai publié.
Et comment a été accueillie la publication de Chalamov ?
Ben Chalamov, assez comme ça, on n'a pas voulu y croire. Il y en a quelques-uns, il y a eu quelques articles quand même, qu'on dit c'est pas possible, enfin. Et il racontait le premier, il racontait les cas de cannibalisme dans les camps, des choses effroyables. Et il voulait pas faire du théâtre, enfin, des choses spectaculaires, il racontait vraiment comment ça se passait, et c'est effroyable. On voulait pas croire. Parce que Ivan Denisovitch, le truc de Solzhenitsyn, c'est bien, c'est gentil. C'est gentil. Même Elsa Triolet, je vois dans sa correspondance avec Lily Brick, elle trouve que, enfin, bon, c'est bien, il raconte, mais vous voyez, dans les camps, on se rééduque et puis on en sort un autre homme. C'est bien, ça. Et Chalamov, c'était tout à fait autre chose. En réalité, c'était pas des camps d'extermination à la façon des nazis, mais c'était des camps où on vous décervelait, finalement, sous prétexte de rééducation. On était décervelés. Et Chalamov a résisté jusqu'au bout. Il est devenu aveugle. Il avait toutes sortes de... Bon, il en est sorti et il a bien écrit là-dessus.
Il en est sorti. La publication, même très partielle, de certains récits à l'étranger vaut des difficultés à Chalamov. Le régime soviétique le considère comme un traître, alors qu'il voudrait pouvoir entrer enfin dans l'Union des écrivains, en obtenir quelques menus avantages. Pris entre le marteau et l'enclume, il va écrire une lettre à l'organe officiel des lettres, la Literaturnaya Gazeta, pour soutenir qu'il n'est pour rien dans la publication de ses textes à l'étranger. Alors ce courrier n'a cessé depuis d'être évalué sur l'échelle de la résistance et des accommodements par des experts autoproclamés qui n'ont jamais connu la situation dont tentait de sortir Chalamov. Quelque part dans son œuvre, on lit ceci. Parfois, il faut bien offrir une livre de sa chair pour sauver sa peau. Il n'aura d'autre issue que d'entrer, non pas à l'Union des écrivains, mais dans un hospice de vieillards. Et pire que l'hospice, il y a l'asile d'aliénés. Dans ses derniers jours, Chalamov a été transporté de force dans un asile où il est mort. Dans l'URSS finissante, la psychiatrie était devenue une branche de la discipline carcérale. Lisant un des récits consacrés à la fin en camp du grand poète Ossip Mandelstam, on ne peut s'empêcher de penser que Chalamov a anticipé sa propre fin terrible.
Ses grandes mains gonflées par la faim aux doigts blancs, exsangues, et aux ongles sales, longs et recourbés, reposaient sur sa poitrine sans qu'il les protégeât du froid. De temps à autre, ses doigts bougeaient, claquaient comme des castagnettes, palpaient un bouton, une boutonnière ou un repli de son caban, époussetaient une saleté et s'immobilisaient à nouveau. Sa pensée se fixait sur un grand grain de beauté que le chef de baraque avait au milieu de la figure. La plupart du temps, il songeait aux événements qui emplissaient sa vie d'ici. Les visions qui lui apparaissaient n'étaient pas des images de son enfance, de sa jeunesse ou de ses succès. Toute sa vie s'était hâtée vers quelque but. Et c'était merveilleux de ne pas avoir à se dépêcher, de pouvoir réfléchir lentement. Alors, sans hâte, il pensait à l'auguste uniformité des mouvements d'un moribond, à cette chose que les médecins ont comprise et décrite avant les peintres et les poètes. Le moindre étudiant en médecine connaît la face hippocratique, le masque du moribond, cette énigmatique uniformité des mouvements réflexes des moribonds.
Que cette lecture du récit de la mort du poète soit aussi un hommage à André Wilms qui vient de disparaître. La mort du poète dans l'abandon, mais l'enterrement. Voici de nouveau Nicolas Werth dans la lumière.
Malgré tout, dans la Russie, on aime les poètes, les grands écrivains. Ça, c'est justement quelque chose qui va au-delà du système, au-delà de l'idéologie. Il y a ce respect immense pour les écrivains, les poètes surtout, mais bon.
Nicolas Werth, qui préside Mémorial France, a refait il y a une dizaine d'années la route de la Colima. Tel ou tel petit musée privé y conserve l'histoire mêlée des anciens détenus et des anciens gardiens et des objets donnés par les uns et les autres.
Il y avait évidemment presque plus rien. Les bâtiments avaient fini de se décomposer. Tout ce qui était en dur, les gens locaux étaient venus se servir des câbles, des poteaux en métal, des structures métalliques pour les revendre. Donc il restait très très peu de choses. Vraiment, en fait, ce qui restait visuellement, ce qui était le plus impressionnant, c'était en fait les bâtiments industriels de la Colima, de cet ensemble concentrationnaire. D'ailleurs, les photos que j'avais mises, tout à fait amateurs, que j'avais prises, montrent justement ces restes de centrales, ces restes d'usines de retraitement d'uranium, parce qu'au fond des camps, il ne restait vraiment que ici et là un petit reste de cachot, parce que le cachot était en pierre et non pas en bois. De ce point de vue, c'était vraiment des traces infimes qui restaient. Alors, ce que l'on voit surtout, les restes de ce que l'on voit dans ce sort de paysage du désastre, c'est essentiellement la Colima post-stalinienne, c'est-à-dire au fond, ces petits villages, ces petites bourgades plutôt, ces bourgades qui, comme Yagodna et beaucoup d'autres, Diebin, Semchan et d'autres, qui ont survécu, au fond, au goulag pendant les années 50, 60, parce que ils ont continué un peu sur la lancée à exploiter un peu d'uranium, même un peu d'or, mais avec une main-d'œuvre ex-détenue, mais qui n'était plus détenue. Et donc, on a les Khrushchev, qui est des petits immeubles de 5 étages qui ont été construits au milieu des années 50, début des années 60. Donc, la Colima n'a pas disparu, comme région, ne s'est pas écroulée tout de suite. Ça a duré pendant 20-25 ans, jusqu'au moment où, au fond, on a épuisé tout ce qu'on pouvait épuiser comme ressources et où l'éloignement, comme dans d'autres régions du RSS, plus la démographie, etc., le côté absolument artificiel est apparu avec force. C'est devenu une région bésperspective, sans perspective, comme d'autres campagnes profondes de la Russie, que ce soit en Sibérie, dans l'Oural, etc.
La Kolyma est déshabitée, mais Chalamov, lui, est de plus en plus lu. Paradoxalement, ces dernières années, il gêne moins le pouvoir de Poutine que Solzhenitsyn, dont l'œuvre n'est plus en cours au Kremlin parce qu'elle critique l'action de Staline pendant la Grande Guerre patriotique. Quant au système concentrationnaire russe, on sait qu'il subsiste depuis l'une de ses unités les plus sévères, Navalny, l'opposant, a appelé à des manifestations quotidiennes contre l'invasion de l'Ukraine. Chalamov avait participé à la dernière manifestation de la Place Rouge de l'époque stalinienne, 1927. En 1967, nouvelle manifestation. Prudemment, il se tenait dans une rue adjacente. Il sait ce qu'en court dans ce pays l'opposition. Merci à Nicolas Werth qui a publié avec Luba Jorgensen un maître livre Goulag chez Bouquin. Luba Jorgensen qu'on retrouve demain dans l'émission de Stéphanie Duncan, consacrée elle à Vassili Grossman. Sur Chalamov, elle a publié chez Verdier Semeur Dieu et puis co-traduit Les souvenirs de la Kolyma. Les lectures Grégoire Roqueplot, à la technique Thomas Robin et Yann Fressy, les agents d'intelligence service Frédéric Martin, Franck Olivard et Marion Philippe. Tout un ensemble d'émissions spéciales au long de ce week-end. Je signalerai notamment celle de Patrick Boucheron dimanche à 13h20. Ukraine, leur guerre, notre histoire. Chalamov disait que les Russes avaient au-dessus d'eux d'autres constellations que les Occidentaux, mais que le ciel était le même. C'était une réalisation d'Étienne Bertin. À la technique, à la maison de la radio et de la musique, Anne-Laure Cochet.